Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour, 16h pile. Vous dire que ce soir, il y a un peu de tout ce qu'on n'aime pas pour terminer le mois de mars. Neige mêlée de grésil, pluie verglaçante sur le secteur sud de la région, accumulation de neige et de grésil de 5 cm, des rafales de vent à 40 km/h, température stable à près de moins 1 degré, c'est zéro présentement à Québec. Demain, 1er avril, nuageux, 40% de probabilité d'averse de neige avec un maximum de 2 degrés. Jeudi, alternance soleil-nuage, maximum de 3, vendredi de la pluie. Maximum de 6 sur les routes Audrey.
Juste rappeler l'accident qui est sur Henri IV Sud, hauteur chemin des Quatre Bourgeois. C'est la voie de gauche et la voie du centre qui sont bloquées en ce moment. Le remorquage qui est en cours.
On va reparler des gros dossiers judiciaires dans la prochaine demi-heure avec Judith Desmolles. Mais Gab, avant de se lancer dans le reste des nouvelles, peut-être résumer rapidement. Il y aura un deuxième procès. On reprend à zéro concernant le tueur de l'Halloween.
Exact. Carl Girouard, donc, il a été reconnu coupable au terme d'un procès en mai 2022 de 2 meurtres prémédités, 5 tentatives de meurtre pour ce qui est arrivé à l'Halloween 2020. Et la Cour d'appel a donné raison donc à Carl Girouard et annule le verdict de culpabilité. L'accusé avait présenté une défense de troubles mentaux qui n'a pas été retenue par les jurés. Et ce qu'on mentionne, là, c'est que c'est lors de l'interrogatoire, Girouard avait maintenu son droit au silence, qui démontrait, selon la poursuite, que son état mental n'était pas altéré. Bien, la défense avait soutenu que c'est ce silence qui soutenait plutôt sa thèse. Et le juge aurait manqué à donner une directive claire portant sur l'utilisation limitée du droit au silence de Girouard, ce qui aurait joué un rôle dans la décision survenue en mai 2022 et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ça ne tient plus, mais plus de détails tantôt avec Judith Desmolles.
L'autre gros dossier judiciaire, bien évidemment, c'est la décision qui a été rendue dans le procès au civil de Gilbert Rozon.
Il doit verser plus de 880 000 $ à 8 des 9 femmes qui affirmaient avoir été agressées sexuellement par Gilbert Rozon. La juge Chantal Tremblay a cru les versions donc de toutes les femmes qui se sont regroupées sous les courageuses là, comme pseudonyme. Il y avait Marie-Léna Sicari, par contre, qui n'a pas réussi à satisfaire le fardeau de la preuve. Et elle, donc, est la femme qui n'obtient aucune réparation. Pour les autres, elle se partage entre 70 000 et 155 000 $ Pourtant, elle demandait 14 millions dans ce procès civil qui s'était étalé de décembre 2020. À septembre 2025, avec beaucoup de témoignages, évidemment. C'est un procès qui était très suivi.
Un peu plus tôt, Gab, on parlait de la motion que le Parti québécois a proposée à l'Assemblée nationale. Bien, elle a été adoptée à l'unanimité. Donc, tout le monde a voté du même bord. Puis je regarde pas le communiqué, mais le tweet du Parti québécois. Grâce à notre motion adoptée à l'unanimité, le gouvernement s'engage à poser des gestes pour éviter que de nouveaux cas comme celui de la policière du SPVM visé par des insultes misogynes ne surviennent à nouveau. La ville de Montréal était très hésitante à punir ou à réglementer les abus de langage envers les policiers. Finalement, ce sera fait au niveau provincial. Je pense que c'était la chose à faire. Puis, bien franchement, là, bravo à gauche et à droite de ne pas avoir fait de petite politique là-dessus. On est dans le vivre ensemble. Il y a des règles, je pense, qu'on est tous capables de s'entendre. Cette conversation-là, ça n'avait pas sa place. Les termes utilisés n'avaient pas leur place non plus. Ça prend des cas extrêmes, des fois, pour changer des affaires. C'en était un. Bravo. Bravo aux politiciens de l'Assemblée nationale.
Autrement, dans les faits divers de la journée, malheureusement, une enquêtrice de la SQ qui a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions à la suite d'une collision frontale avec un autre automobiliste. Ça se passe sur la Haute-Côte-Nord. Anaïs Fortin-Cosens, qui circulait sur la route 138 pour rejoindre son quartier général, elle a été percutée par une camionnette à Portneuf-sur-Mer vers 10h45. Il y a un troisième véhicule qui s'est également écrasé contre les deux premiers, faisant deux autres blessés. Évidemment, là, la SQ a déjà envoyé message de condoléances et des pensées qui accompagnent la famille et les proches de la collègue Anaïs Fortin-Cosens, décédée aujourd'hui dans ces circonstances. Du côté de Chaudière-Appalaches, au cours des dernières années, il y a eu différents événements liés avec le crime organisé. Il y en a un qui a connu aujourd'hui son dénouement du côté judiciaire. C'est Kim Rancourt qui obtient 45 mois de prison pour avoir tranché l'oreille d'un homme dans la vingtaine.
Ça se
passait à Saint-Zacharie, en Chaudière-Appalaches. Ce qui est également particulier dans cette histoire-là, c'est qu'on a la vidéo qui est disponible. Évidemment, il ne faut pas être...
La vidéo du coupage d'oreille est disponible.
Oui.
On va sauter un tour.
Voyons.
Donc, parce que ça a été présenté en preuve également, tout ça, pour notamment là, démontrer la séquence et peut-être l'état d'esprit également des personnes acteurs dans cette histoire. Le juge dit, malgré la présence de certaines circonstances atténuantes, le tribunal constate qu'il s'agit d'une agression préméditée, gratuite et d'une rare violence dans un contexte de règlement de compte lié au crime organisé, ayant causé des séquelles permanentes et importantes chez la victime. Donc, la femme de 35 ans s'était rendue en plein milieu de la nuit chez la victime avec deux complices, 14 avril 2024. La victime croyait qu'elle voulait lui acheter de la cocaïne et elle a exigé « Tu me donnes tout ton stock », ajoutant que son boss voulait qu'elle reparte avec un doigt ou une oreille. La vidéo troublante a été déposée en preuve. Bon, et donc finalement, le résultat, c'est un 45 mois de prison, mais le ministère public demandait entre 4 et 5 ans de détention ferme pour refléter la gravité des gestes. La défense réclamait 2 ans moins un jour. Donc, on est à 45 mois pour Kim Rancourt. 1,3 million d'aides aux commerçants de Saint-Roch. C'est une enveloppe qui a été mise en place au cours des derniers mois seulement dans Saint-Roch. Et on a dépassé le budget initial. On devait partager 1 million de dollars pour différents commerces de Saint-Roch pour aider justement à la vitalité économique du secteur et à la SDC. Et puis là, on a dépassé le budget parce qu'il y avait un trop grand engouement de ce fonds-là.
Je sais qu'au départ, on s'était rajusté parce que au niveau territorial, les commerces qui étaient éligibles, il y avait des incongruités, là, des gens qui étaient sur la même rue. Un qui était d'un bord de la rue pouvait demander de subvention, puis lui qui était en face pouvait pas. Mm-hmm. Puis probablement qu'en élargissant, on savait déjà qu'on allait bosser le budget, mais on s'est dit, c'est vrai que ça n'a pas de rapport, le cadre est trop petit, mais là, les subventions, à partir de là, il n'y en a plus, c'est ça?
Donc, annoncé en mai dernier, le fonds spécial pour Saint-Roch, il y a 19 entreprises qui ont bénéficié de cette aide financière allant de jusqu'à 75 000 $ Là, au début de la journée, c'était ça, c'était de dire qu'il n'y en a plus. C'est la réflexion, là. Oui, exact. Donc, on fait juste mettre sur pause ce programme-là parce que, justement, on a bossé le budget. Mm-hmm. Et on va réfléchir un peu à comment peut-être prendre un pas de recul, une phase 2 de l'initiative. C'est ce que la conseillère du coin, Hélénie Lepage, veut faire avec ça. Un des trucs qui est reproché dans cette initiative-là, c'est que ça n'a pas changé le taux d'inoccupation des espaces. Il était à 19 %, il est encore à 19 %. Donc ça, c'est le côté plate. L'objectif d'ici 2029, c'est de faire baisser ce taux d'inoccupation à 10 %. Hélénie Lepage reconnaît là, que dans le coin, il y a beaucoup de pieds carrés dans l'ancien Benjo, dans l'ancien La Liberté ou l'Accordé, et ceux-là sont difficiles à occuper. Donc, on essaie de trouver des solutions créatives présentement, peut-être des subdivisions pour faciliter de nouvelles entreprises à s'installer à Saint-Roch.
C'est plate, hein, parce que pour illustrer de la meilleure façon à quel point le quartier Saint-Roch a changé, c'est l'aventure du Benjo qui parle d'elle-même. Mmh. Parce que vous savez comment c'est fait, hein? Il y avait comme une espèce d'espace à l'air libre qui rentre dans le magasin, puis la porte était plus creuse. Puis le résultat que ça fait, c'est que pour se mettre à l'abri mm-hmm. du vent pour les itinérants et les sans-abri, ça devient comme pratique. Le spot ouais. par excellence. Fait que là, tu penses à la grenouille de Benjo, puis tu penses aux jouets que tu voyais à travers les fenêtres il n'y a pas si longtemps. Puis maintenant, ben, t'as l'édifice qui est complètement vide, puis t'as les sans-abri qui sont en moton dans ce carré-là. Quand même triste. Et ça, ben, tant que ça ne changera pas concrètement, subventionne tant que tu veux les commerces qui sont déjà là, ça ne donnera pas le goût à d'autres d'emboîter le pas, mais ça ne se fera pas en 6 mois. Là. Ça va être du travail de longue haleine.
Il y a une nouvelle qui nous provient de la France parce que là, cette fois, c'est le...
Céline?
Oui, mais...
Non, pas Céline.
Mais il y en a d'autres.
Okay.
Une fois qu'ils sont passés à la prochaine nouvelle du côté de l'Hexagone.
Bon, d'accord.
Le Sénat, maintenant, adopte aussi l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Ça, c'est un dossier qui est surveillé parce qu'en Australie, ils ont légiféré beaucoup là-dessus, sur l'interdiction des réseaux sociaux. Bien là, la France embarque et souvent, bien, ça fait boule de neige jusqu'à une juridiction québécoise. Mm-hmm. Déjà qu'on se pose beaucoup de questions là-dessus. Donc, sachez que la France va de l'avant avec cette interdiction. Dans leur cas, c'est moins de 15 ans. Donc, et probablement là, d'ici la rentrée scolaire prochaine.
Tellement dur à appliquer, là. Tu sais, je trouve toujours ça intéressant quand il y a des endroits où on emboîte le pas pour mettre des règles par rapport à ça, mais j'ai comme l'impression que c'est peine perdue pour l'instant.
Bien, c'est parce que faut que tu changes complètement les interfaces. Si tu dis que c'est interdit, puis que pour ouvrir Instagram, on te demande as-tu 18 ans, puis que t'écris oui, ouais, comme pour aller consulter de la pornographie, là, mettons.
Ils font ça?
Ben, les gens me disent oui, ça, okay. Là, ouais.
Tu mets une fausse date de naissance pour créer ton compte Facebook.
Ben, moi, je dis encore non, là. Fait ben que je sais pas ce qu'il y a à l'autre bout, non. Si tu mens, là, puis tout ça, là.
Sur les sites web aussi des microbrasseries québécoises, ben oui, ça, ben ça pose oui. La question.
T'sais, c'est parce que c'est niaiseux. C'est niaiseux. Si tu veux le faire comme faut, fais-le comme faut. Moi, je pense encore que c'est l'identité numérique qui règle bien des problèmes. Quelque chose qui fait en sorte que dès que tu te branches sur un ordinateur, tu as ton identité, puis à côté, ben tu as ton certificat de baptême.
Comme le numéro d'assurance sociale.
Exact.
En ligne. Je veux dire, on est rendu qu'on a une vie virtuelle.
Et à partir de ce moment-là, ben quand ben même que tu t'appellerais, je sais pas moi, Indécrossable Québec sur Twitter, ben, on va être capable d'aller te chercher chez vous si tu fais rien que dire des conneries.
Et je reviens sur cette histoire-là. Elle est fascinante. Vous vous rappelez de cet arbitre, Steve Beaudoin, qui a été frappé par un parent par derrière dans un match de hockey à Lac et Chemin. Ce dossier-là continue de suivre son cours. Mais c'est la même personne qui est impliquée dans l'histoire d'aujourd'hui, c'est que Steve Beaudoin est arbitre, oui, et s'est fait pousser, et c'est épouvantable, mais il est également entraîneur. Et là, il est suspendu 5 ans par Hockey Québec Chaudière-Appalaches dans le comité de discipline régionale pour plusieurs manquements disciplinaires. Lui entraîne une formation M18 2A, les Vikings 2 Sud, et ce qu'on sait, c'est qu'il a falsifié sa formation à plusieurs reprises. Et c'est pas le seul manquement, là. Dans le cas des falsifications de formation, c'est qu'il y a des joueurs suspendus qui ont été utilisés quand même lors de certaines parties, sous un peut-être autre nom, mais lui décidait quand même de les aligner dans la partie. Lui a même mentionné lors d'une rencontre avec les parents qu'on a ciblé le 18 octobre 2025 qu'il le ferait aussi souvent que nécessaire, entre autres parce que des joueurs ne se présentaient pas car ils travaillaient. Son excuse, c'est de dire « fallait j'abaisse mes joueurs suspendus parce que j'avais pas de remplaçant. »
Lui est suspendu 5 ans.
Oui.
Puis le parent qui l'a poussé... Il est même pas barré de l'aréna.
Ben, on le sait pas, là, ça, c'est un autre dossier, ouais. Ça suit son cours. Mais le lendemain de cette histoire-là du parent qui le pousse, Hockey Québec disait qu'il n'y avait pas de pogne parce qu'il n'était pas membre de Hockey Québec, le parent.
Sais-tu à quoi ça me fait penser? Tu sais, dans notre justice, des fois, tu regardes agression sexuelle 6 mois, vol de banque 5 ans.
Ouais, là,
je trouve qu'on est un peu dans les mêmes rapports, puis il y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais je veux juste pas qu'on se serve de cette histoire-là pour se dire, ouais, finalement, il méritait de se faire pousser en tant qu'arbitre.
C'est ça, évidemment.
Ça n'a pas de rapport.
Évidemment, il n'y a pas de rapport. C'est juste que Steve Beaudoin a comme deux histoires rattachées à son nom.
C'est
là.
Triste, pareil.
L'histoire où il est victime dans le cas de l'arbitre et l'histoire où il est coupable dans le cas donc de sa vie d'entraîneur.
C'est tout ce qui est triste, Gab, puis je sais que tu vas avoir des choses à nous dire là-dessus parce que t'es sur le retien depuis une couple de semaines.
C'est là?
Oui, ça va être là. Ça va être là. Ouais, je sais. C'est que ça n'a jamais donné, mais là, ça a donné.
OK, bon, good.
On va t'écouter, t'es avec nous autres en plus, on va en profiter. Là.
J'ai hâte d'entendre.
C'est qu'il y a des gens qui vont lire cette nouvelle-là ou qui vont entendre cette nouvelle-là, tu sais, que l'arbitre qui s'est fait pousser par un parent timbré, ben lui, il crossait le système puis il est barré de Hockey Québec. Et la réaction de bien du monde, ça va être de dire ah, « Vois bien que tout le monde est croche dans le hockey. »
Dans le hockey.
Dans le hockey. Puis il y a des gens que ça va servir, on parlait d'agenda tantôt. Il y a un agenda contre le hockey, là. Présentement au Québec, là, de dire que le hockey, c'est pas bon, puis c'est là que la misogynie,
oui.
La culture toxique, le masculinisme...
Moi, je suis surpris que Bekali, là, Mohamed Bekali, on n'ait pas checké son hockey DB, combien de games qu'il y a dans le midget espoir, parce que c'est un joueur de hockey, puis c'est pour ça qu'il insulte les femmes
c'est
policières.
C'est sûr qu'il y a eu des grosses histoires reliées au hockey aussi qui font en sorte que les gens en font des généralisations.
Je sais, mais... Mon impression, c'est que s'il y avait 800 000 joueurs de badminton au Québec, il y aurait eu des cas graves de badminton, puis d'entraîneurs de badminton, puis de joueurs de badminton. Puis je pense qu'il y a du monde cave et croche dans tous les sports. Je comprends que le hockey a cette réputation-là, puis il y a une culture, puis c'est des normes, pas des normes, des mœurs. Qui était différente dans les années 80. Puis, tu sais, on
mais
parlait de John Tortorella hier.
Mais c'est prend aussi, Gab.
Exact. Donc, il y a beaucoup de joueurs de hockey. Mais c'est que j'ai vu l'autre jour, c'était sur un jeune qui, ben là, il est rendu moins jeune, dans la vingtaine. Puis, une histoire d'agression sexuelle aussi. Mais ça disait, ce joueur de hockey est cop de... ou est accusé d'agression sexuelle à telle place. C'est épouvantable. Mais je comprenais pas pourquoi on le déterminait joueur de hockey et pas, mettons, je donne un nom au hasard... Puis je vais donner un nom.
Donne le mien.
Denis Ravel, ouais, c'est ça. T'sais, ce joueur de hockey est accusé d'agression sexuelle.
Genre, j'ai joué 2 saisons bantam.
Ben, tu sais, C'est pas ce joueur de hockey, c'est Denis Gravel est accusé de la la la.
Je suis aussi un collectionneur de timbres, mais c'est pas mentionné.
Ça, c'est la mauvaise foi de la part du journaliste qui écrit ça.
Oui,
c'est un clickbait.
Moi, dans ma tête, la prochaine étape, c'est quand Dave Picturmel va revenir de l'Italie, ce joueur de hockey était à la tête d'un grand. Il a sûrement joué. La plupart des petits gars ont joué au hockey à un moment donné.
Je te rejoins un peu là-dessus. Puis c'est drôle parce qu'on a fait un petit statement dans le pit stop aussi parce que Jeff Fortin est entraîneur.
Ouais.
Je pense qu'il a été arbitre à un moment donné. Ses enfants sont rendus grands, mais il joue, il coach chez Flo. T'sais. Puis moi, ça fait 3 ans, 4 ans que mon grand joue au hockey. Puis j'ai juste des expériences positives. Puis je trouve ça plate.
Mais il est jeune encore.
Oui.
Je challenge pour challenger. Si je connais des textos qui arment, je trouve ça intéressant.
Qu'est-ce qu'ils disent, les textos?
Il y a quelqu'un qui dit, personnellement, moi, c'est pas la gravité des cas au hockey, mais la quantité.
Mais c'est parce qu'il y en a plus.
Oui.
Il y a plus d'agressions faites par du monde blanc au Québec parce qu'il y a plus de monde blanc au Québec. Tu as plus de joueurs de hockey que de joueurs de badminton.
Le ski acrobatique, il y en a eu.
Oui.
La natation, il y en a plein.
Je pense que c'est la culture vraiment qui vient avec le sport. C'est sûr que l'histoire qui entoure Hockey Canada, mettons, il y a une couple d'années, ça n'a pas aidé. T'sais, j'ai comme l'impression qu'on mord sur un poisson puis on essaye de le vider le plus possible. T'sais, on squeeze le citron pour essayer de tout mettre. C'est peut-être parce qu'on en parle plus aussi.
Des fois, j'ai l'impression que du monde qui n'aime pas le hockey se servent un peu de ça pour dire « Ah ben vous voyez bien que c'est de la merde. » Oui, mais c'est parce qu'il y a plein de monde qui grandissent dans le hockey, qui apprennent une belle culture de par le hockey aussi. Mmh. On a parlé d'un sport qu'on connaît peut-être un peu moins. Je vais parler de moi, Véro, puis Audrey. Quand on a parlé du football, des programmes de football scolaire, il y avait des parents qui étaient bien découragés de dire « Moi, mon jeune s'est inscrit dans le football scolaire, puis à chaque fois qu'il y a une game importante, il joue pas. » Moi, je paye le prix.
Oui.
Mon enfant fait des sacrifices, puis tout. Puis, à chaque fois qu'il y a une game importante, il joue pas.
Ça, c'était un reportage aussi de Jean-Nicolas Blanchet.
Exactement. C'était très bon, c'était excellent. Puis là, tu avais des gens qui nous écrivaient « Écoute, Denis, le football, c'est pas comme le hockey. » Dans le football professionnel, tu as des gens qui font partie de l'équipe qui ne joueront pas non plus. Dans le football, tu vas apprendre des choses même en jouant pas. Tu vas apprendre la culture du football même en jouant pas. Puis, moi, ma réflexion, c'était la suivante. Je sais que pour certains, ça peut bien faire. Moi, là, faire partie de l'équipe de football, pas jouer une Christie de game, mais avoir l'équipement pour pouvoir croiser les filles, là, j'aurais fait mon secondaire comme un king, OK? Comme un king, un fraudeur, mais un king. Mon gars s'embarque sur un programme scolaire de hockey. S'il joue pas de l'année, il va être triste.
Ouais.
Parce que lui, il aime ça, jouer. Lui, ce qu'il veut, c'est être sa patinoire puis jouer au hockey. Mais ça dépend des perceptions des gens, mais des fois, on essaye de faire... Je sais pas, mauvaise presse au sport dans une société où nos flots font plus rien. Avez-vous vu les chiffres en fin de semaine?
Je les ai pas vus passer, ça doit être épouvantable.
Ils bougent pas.
T'as 3 enfants sur 4 qui mangent pas le légume. T'as un taux d'inactivité d'à peu près...
Du 14 heures par jour sur les iPads.
Ouais. T'sais, commencer à faire mauvaise presse au sport en général parce qu'il y a des cas d'exception.
C'est correct de vouloir l'améliorer parce qu'il y a toujours des imperfections puis des histoires épouvantables. Fait que il y a un aspect, je pense, qui est noble dans l'idée de vouloir améliorer la culture du hockey parce qu'il y a des débordements puis il y en a encore puis c'est correct. C'est juste des fois, je trouve que... Parce que là, c'est le hockey qui est notre sport national.
Mm-hmm.
En France ou en Europe, le sport le plus pratiqué, c'est le soccer. D'après moi, il y a beaucoup de gens où il y a des articles où il y a peut-être la même affaire qui se passe là-bas si on vivait là, que cet espoir de Paris Saint-Germain a fait telle affaire en telle année.
Les hooligans en Angleterre, ils vont pas au parti de quilles. Hein. Ils vont au parti de soccer. Puis ils font des émeutes.
Bon.
Puis ils font de la violence.
Ben, c'est
parce que c'est le sport le plus répandu puis le plus populaire. Puis un endroit où les cas sont en hausse au Québec, c'est le soccer. Pourquoi? Parce que de plus en plus de jeunes pratiquent le soccer, ce qui amène de plus en plus de parents puis de plus en plus de monde, donc de plus en plus de cas et d'histoires. La dernière fois qu'on avait parlé de dérapage parentaux, c'est l'été dernier, avant les histoires de hockey, puis c'était des histoires de soccer.
De médailles, puis de bourses, puis d'affaires, oui.
C'est dommage. C'est dommage parce que c'est les jeunes qui finissent tout le temps par écoper. Mais je comprends ton point, puis je comprends ton statement par rapport au sport qui vont faire en sorte qu'il y a des gens qui vont se rendre jusqu'au secondaire 5 puis avoir le diplôme. puis qu'il ne ferait pas autrement. Je trouve qu'au total tout, il y a plus de belles histoires que de mauvaises histoires. Puis j'espère que le temps va me donner raison, parce que mon gars embarque dans un programme scolaire de hockey à partir de l'année prochaine. C'est sûr que moi, je suis un parent, je suis comme vous autres. Je lis les nouvelles des fois, puis je me demande. Je dis, j'ai-tu ouais. bien fait, moi? Ouais. Moi, je faisais ça pour que mon gars soit heureux. Il va-tu être heureux?
Mais je pense que jeune, t'as pas de problème.
Je suis stressé un peu.
Non, les histoires qui sortent, généralement, touchent pas les jeunes d'en bas de 15 ans. Là. Mm.
Fait, pis, quoique. Ouais, y a les Pee-wee qui se sont battus à... ouais. au dernier tournoi, là, c'était tous des flots de 13.
Non, t'as raison. Moi, j'étais plus dans les
de
violences
sexuelles. De l'international, d'ailleurs.
De toute beauté.
Ouais. Pas d'ici, nécessairement.
Non, j'étais plus dans les violences sexuelles. J'étais plus dans ce... mais effectivement, mais normalement, j'ai l'impression que quand t'es plus jeune, ça se passe pas si mal que ça.
Hé, on a un peu de temps.
Je peux-tu? Ben, parce que oui. j'ai pas vraiment raconté l'histoire de Steve Beaudoin, à part le truc de il faisait jouer des joueurs suspendus.
Oui.
Également, une autre
l'arbitre,
affaire.
L'arbitre qui s'est fait pousser par un parent
était également coach.
C'est de lui que tu nous parles.
Oui. Et ça, c'est son histoire qui fait en sorte qu'il est suspendu 5 ans par Hockey Québec, Chaudière-Appalaches. Oui, l'arbitre s'est fait pousser, mais aussi en tant que coach, parce qu'un autre des manquements qu'on lui reproche, c'est qu'il faisait payer 2$ à ses joueurs quand il écopait d'une punition. Je vais te le répéter.
C'est spécial, ça?
M18 2A. Viking 2 de l'endroit, là.
Ouais.
Faisait payer 2$ à ses joueurs quand il y avait une punition. Et d'ailleurs, en fait, c'était un 2$ parce que c'est souvent des 2 minutes. En fait, c'est 1 minute par minute de punition. C'est okay. l'équivalent. Si c'est un 5 minutes, c'est 5$.
4 minutes. 4
lui a reconnu tout ça. Il mentionne avoir instauré cette chose-là, car en début de saison, il y avait beaucoup de punitions et qu'il y avait eu amélioration. La contribution était de 1$ par minute de punition. Il indique qu'il verrait à remettre les sommes. Il motivait cette décision par un manque de chimie de l'équipe. Il mentionne que l'année précédente, il entraînait une équipe 2B, mais que cette année, à cause du regroupement de toutes les associations, il entraînait le 2A. Il n'y avait pas de chimie dans l'équipe, le territoire est plus grand. Donc, manque de chimie, donc trop de punes, donc on fait payer 2$.
Pas super.
Tu manques d'éthique? Hein?
Pas super. Mais suspendu 5 ans.
Oui.
Donc, il sera plus arbitre, il sera plus entraîneur.
Ben, ça a été un facteur aggravant de sa décision, notamment le manque de remords de l'entraîneur à respecter les règles, mais surtout le côté incongru d'un côté être arbitre ouais. et faire en sorte qu'on respecte les règles, mais lui, de l'autre bord, ne pas les respecter.
Il est 16h23, on retourne sur les routes, Audrey?
Oui, là, c'est pas top sur les routes, je vais vous dire. Là. Peut-être commencer par Henri IV-Sud, hauteur du boulevard Hochelaga, à votre droite, qui est bloqué. C'est une panne. Autrement, l'accident qu'il y avait sur Henri IV-Sud, hauteur 4 Bourgeois, là, je vous parlais de voie de gauche bloquée, voie du centre bloquée, c'est ramassé, fait que ça recommence tranquillement pas vite à circuler, mais on s'énerve pas trop parce que c'est quand même assez au ralenti, là. Henri IV-Sud, à partir de chemin Sainte-Foy, vous sentez le ralentissement jusqu'à l'entrée des ponts. Même chose pour Duplessis-Sud. Robert Bourassa, direction nord. Des problèmes entre le boulevard Laurier et la capitale. Capitale-Est, c'est hauteur, Robert Bourassa. Il y a des problèmes assez inhabituels sur... mais Henri IV-Nord, à la hauteur de la capitale, un peu plus aussi dans le coin de Val-Bélair, entre Sainte-Geneviève et l'avenue industrielle. Si vous êtes sur Charest, direction ouest, il semble y avoir un bon ralentissement dans le coin Cap-Rouge, près de Jean Gauvin, là, précisément, là, puis de l'avenue Legendre, mettons, entre ces deux-là, là, assez difficile de circuler. Puis pour ce qui est de la rive sud, bah, il n'y a pas grand-chose. 20 ouest, hauteur Taniata, ou peut-être qu'il y a un petit ralentissement, mais honnêtement, la rive sud se porte bien aujourd'hui. Autre chose, 88-971-102 texto.
Est-ce que j'ai encore un peu de temps avant l'arrivée de Judith? Oui. Tu m'as dit qu'elle parlait du bureau, elle partait du bureau tantôt. J'ai le temps?
Vas-y.
OK, parce que je suis crocheté là-dessus depuis tout à l'heure, puis là, je veux entendre les auditeurs, puis je veux vous entendre, toi puis Gab, vas-y. Aussi, là-dessus. On connaît maintenant l'identité du gars qui a engueulé la pauvre policière. On vous rappelle qu'il y a une motion qui a été votée à l'unanimité cet après-midi à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que les policiers soient protégés devant ce genre d'individus-là qui tiennent ce genre de propos-là à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que tout le monde a voté du bord du PQ. Moi, je dis bravo, c'est rare que ça arrive. Ça prend des fois des cas extrêmes pour faire bouger les choses. Ce soir, au 99.5 à Montréal, Rémi Villemur a une entrevue avec le gars en question. Mohamed
Bekali.
Bekali, c'est ça son nom? Parce que je le cherche puis je le trouve plus. Là. Mohamed Bekali. Puis j'ai vu qu'on a eu des réactions qui allaient un peu dans les deux sens autour de la table. Parce que dans un média, on se pose ces genres de questions-là. Puis je sais que demain matin, puis je commence à me préparer, je sais que demain matin, Marceau va sauter là-dessus, puis que vraisemblablement, on va écouter des extraits d'entrevues ensemble, puis qu'on va en parler dans le pit stop. Mmh. Dans le cas qui nous concerne, Est-ce que c'est un gars que vous voulez entendre s'expliquer et se justifier? Parce qu'un média peut avoir le choix de dire « Nous autres, on fait l'entrevue parce que c'est notre job, c'est un acteur de l'actualité, puis qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il va dire, au pire, il va pogner les nerfs puis il va donner un bon show. »
Bien, c'est un shit show, là. Ça, c'est sûr.
Possiblement. À l'autre opposé, tu peux dire « Moi, je suis mal à l'aise de donner de l'attention à quelqu'un qui en veut beaucoup, 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 beaucoup. » C'est un peu le syndrome du Guillaume Lemaitre-Vierge. Tu le fais-tu ou tu le fais pas?
Bien, c'est un clickbait humain. T'sais, moi, dans ma tête, c'est sûr que ça pogne, c'est sûr que ça attire l'attention. Puis je te mentirais de te dire que je porterais pas attention. Mm-hmm. Parce qu'on est mal fait, hein? On aime ces affaires-là. On a une curiosité un peu morbide puis malsaine, des fois, ces bords. On est intéressé même si on juge, on veut entendre.
Si je te dis, hey, je te donne un mandat là, d'aller me chercher quelqu'un en entrevue, ça serait la première fois en 5 ans.
Puis c'est plus moi qui te cours après.
Ouais. C'était déjà mon scénario est pas très réaliste, là, mais mettons que je te dis, Audrey, je veux absolument que tu me bookes Mohamed Bekali pour une entrevue exclusive.
Ben, je te partage mon malaise.
OK.
Si tu le veux absolument, écoute, c'est ton nom qui est sur le show, mais je sors du studio, là. Moi, j'ai pas...
Toi, tu restes pas. Tu veux pas confronter la personne. Tu veux pas essayer de...
Ben, confronter la personne. Ouais. Un innocent, c'est un innocent. Je veux dire, il manque de respect. S'il est capable de manquer de respect à une autorité policière, qu'est-ce qu'il va venir dire sur nos ondes? Puis moi, c'est parce que si je suis dans une position où il manque de respect à un de vous deux, à Véro ou à toi... Comment je te dirais ça? Je sais que j'ai la mèche courte.
Vous êtes beaucoup à penser qu'il ne mérite pas de tribune en passant. Je suis en train de vous lire. Je trouve ça super intéressant. Gab?
Je ne sais pas trop. Je comprends que c'est probablement un aspect de narcissisme beaucoup. Et ça, je suis d'accord avec toi. J'ai un malaise parce que cette histoire-là me fait penser... En tout cas, ce bout-là de l'histoire me fait penser un peu... je sais pas, les Ostrogoths en vacances.
Tu
te rappelles-tu?
Oui, oui.
La personne, là, qui est... C'est quoi son nom? Parce que là, c'est ça, il manque beaucoup de détails dans cette histoire-là. Il était à Tulum, un vol et tout ça, puis ça avait fait réagir. Mais c'est que le chef, là, de cette gang-là avait organisé une conférence de presse, genre, une semaine après le début du scandale.
Oh,
là,
le tata qui avait une grosse mention avec des...
Fait que là, il était content de flasher ses affaires, puis il était vraiment... Il jouissait de cette visibilité-là pendant une semaine. Fait que ça, je trouve que c'est un exemple récent du passé où tu vois peut-être qu'on est... Peut-être que... Mais c'était lui qui organisait sa conférence de presse. Mais il a donné de l'attention. Puis ça, c'est tannant.
Moi, écoute...
Fait que pour l'affaire de Rémi Villemur, puis de... Je suis pas sûr que c'est la même situation, mais elle me fait penser à ça. Puis c'est pour ça que je serais peut-être con.
Tu sais, il y a un bémol. Parce que je pensais... Pendant 2 secondes, là, je pensais à... À Alex, son nom m'échappe, mais le nom binaire et l'histoire du salon de coiffeur, OK?
Oui, qui a été reçu ici.
Oui. Il y en a, parce que je pense qu'il y a peut-être un certain lien qu'on peut faire. Mettons qu'on prend cette histoire-là. Il y en a que ça a beaucoup heurté, il y en a que ça a fâché, puis peu importe ce que tu penses du résultat de cette histoire-là qui se faisait un peu du capital sur le dos de cause comme ça. Là.
Dans les deux cas, le questionnement se ressemble, même si c'est pas du tout la même histoire. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui veut désespérément de l'attention et est-ce embarque dans son problème à lui en lui donnant le spotlight? Questionnement qui est parfaitement légitime.
Pour moi, la nuance ici, j'avais une question qui me trottait en tête, qui a été abordée dans l'équipe dont on jase avec Jeff Fortin et Pascal CV. Mm-hmm. Il y avait une question sur est-ce que tu fais ça pour... Il y avait un débat social. Fais-tu ça pour ta communauté? Fais-tu ça pour essayer de mettre un point de l'avant? Bon, on a su finalement que c'était simplement égoïste. Là, il l'a mentionné de cette façon-là.
Parce que c'est sûr qu'à partir du moment où tu dis « je fais l'entrevue », ben écoute, nous autres, on a une job à faire. Puis notre job, c'est de poser ces questions-là.
Mais ça, pour moi, il y a un débat social. Parce qu'on est encore en train de se poser des questions sur tout ce qui touche le non-binaire et la façon de se genrer et compagnie. Pour moi, un simple manque de respect ne mérite pas de tribune. C'est un manque de savoir-vivre, c'est un manque de civisme, c'est un manque de considération à l'endroit d'un autre être humain. Puis ça, pour moi, il n'y a pas de débat là, puis il n'y a pas d'explication à donner. Ouais. T'es un mange-marde qui a maltraité quelqu'un.
Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans ça, par contre, c'est... Puis ça va pas l'excuser en rien... Mais il vient d'où? Tu sais, dans le genre, il est élevé par qui? Pourquoi il est rendu à...
T'es qui pour te permettre de parler de même?
Parce qu'à la limite, je comprends même pas comment un être humain peut en venir à agir comme ça en société d'un manque de respect. Puis il y a plusieurs exemples, pas juste avec la policière, les autres, c'est toujours la même chose. Ouais. S'il l'a fait avec les policiers, il l'a fait avec ses enseignants. Mm-hmm. En quelle année il a décroché, là? Parce que je pense, il a-tu fini son secondaire? C'est quoi ses études? Il n'a pas. À la limite, c'est les aspects qui m'intéressent.
Mais tu vois, regarde.
Pas que ça va l'excuser.
Je trouve ça intéressant parce que si j'avais une question à y poser, c'est penses-tu vraiment que c'est de même que tu vas avoir rassemblé? Si c'est le profilage racial, ton combat de société, ouais.
Penses-tu
vraiment
que tu le fais avancer ou tu le fais reculer?
Quel cocombe, là. Mais en même temps, là, je m'excuse, je suis pas cohérente. Là. J'utilise pas les bons mots doux pour parler de l'individu non plus, mais.
ouais.
Quoique, entre cocombe pis pute, moi, il y a comme...
il y a un grand.
On est pas dans le même jardin.
Non, mais là. C'est ouais, ça. Mon jardin, il y a quand même un petit peu de...
Ça va, tout va.
Je trouve ça poli. Ouais. Mais encore une fois, pour moi, ça vaut pas la peine de donner un... Rendu là, j'inviterais plus la policière. Tu comprends? Ouais. Comment tu vois-tu ça souvent? Comment tu gères ça? Comment tu trouves ça que vous êtes pas protégé?
Moi, je suis capable de te faire un cas pour faire l'entrevue, puis je suis capable de te faire un cas pour ne pas faire l'entrevue. Puis je sais que j'ai travaillé dans plusieurs équipes de radio. Je sais que dans certaines équipes de radio, je me serais ostiné avec mon co-animateur qui aurait eu le goût beaucoup, beaucoup de faire l'entrevue, puis que moi, j'aurais pas eu le goût du tout de faire l'entrevue, tu sais. Mmh. Et ultimement, est-ce que j'aurais eu tort? Est-ce que j'aurais eu raison? Est-ce que j'aurais eu le dernier mot? Je le sais pas. Mais c'est vraiment des cas où tu te poses la question, puis c'est pas tout noir ou c'est pas tout blanc. Ma job de média dans un cas comme celui-là, puis je parlais de Guillaume Lemaitre-Vierge tantôt, Julien Lacroix, tu sais, c'est un nom pour lequel ben du monde se sont questionnés à un moment donné. Marceau l'a reçu en entrevue. Mmh. Moi, ça me tentait pas d'y parler. Mais j'ai écouté l'entrevue de Marceau, puis j'ai trouvé ça intéressant, tu sais. Fait que y a pas... je peux pas blâmer le 99.5 de faire l'entrevue, puis je sais pas ce qu'ils vont faire avec l'entrevue.
C'est ça.
D'un point de vue de gars de métier, ça m'intrigue. C'est quoi que Villemur va faire avec?
C'est sûr.
Tu sais, il veut-tu l'entendre? Il va-tu y donner de la place? Il va-tu le confronter? Il va-tu essayer d'y faire pogner les nerfs? Vraisemblablement, on aura les réponses demain matin avec Marceau, puis on jugera ça dans le pit stop. Mais c'est les beaux dilemmes de notre métier, je vous dirais, mais je suis quand même surpris. Je pensais que ça allait être plus 50-50 que
c'est
ça.
C'est quoi?
Vous êtes très nombreux à dire que ce gars-là mérite pas de tribune.
Mmh. Moi, je veux même pas l'entendre. C'est ça, c'est qu'à un certain point, on l'a assez entendu.
Mmh.
Je veux pas l'entendre.
Ouais.
C'est ce qu'il
puis,
veut.
Puis, mettons que le gars veut, parce que c'est une théorie que j'ai vue tantôt par texto, mettons que le gars veut s'excuser. Hey, je l'ai vraiment échappé. Je sais pas ce qui m'a pris.
On a vu son...
Les trois dernières années de ma vie sont un grand flou lumineux.
Là, je trouve que ça serait une sortie facile, on dirait.
Mais non,
parce que c'est pas une fois qu'il l'a échappé avec la policière,
c'est sur plusieurs vidéos,
là, ça se peut pas.
Il fait son compte TikTok basé sur ça. C'est le principe de... Puis je veux juste vous dire, là, c'est rage, parce qu'on appelle ça du rage bait, là. Mm-hmm. Ce qu'il crée sur les plateformes réseaux sociaux peut y rapporter de l'argent. Ouais. Je veux dire, lui, il a décidé que c'était ça, sa talle. C'est son intention. Il y a une intention. Attention. Moi, c'est ça qui m'énerve aussi derrière ça. Il sait ce qu'il fait. Fait qu'il y a une curiosité malsaine. En même temps, c'est ça.
Je vais aller te chercher encore plus que ça. Parce que je réfléchis en même temps qu'on parle. J'essaye, en tout cas. Mettons que je te dis, je veux le gars en entrevue. Mais Audrey, je veux qu'il soit confronté à lui-même. Puis moi, je ferai pas l'entrevue. Je veux qu'il parle à une femme.
Ouais, j'ai pensé
c'est
à
toi,
ça.
C'est toi qui vas faire l'entrevue.
J'ai pensé à
parce
ça.
Que je veux qu'il parle à une femme.
Mais ça serait...
Deux femmes. Tiens, Véro, OK? Je te rajoute Véro, mettons.
Mais tu vois...
Parce que je trouverais l'exercice intéressant de voir comment il interagit avec des femmes qu'il confronte et qui lui posent des questions.
Je pense que si je préparais bien d'avance, c'est une entrevue que je pourrais mener, honnêtement. Mais tu sais, il n'y aurait pas de place pour son discours, en fait. Mm-hmm. Moi, j'aurais des questions sur les notions de respect, sur les notions de base de notre société.
Tu ne laisserais pas aller comme la policière,
oh,
mettons.
Oh mon
là.
Dieu, Seigneur. Un piton micro fermé est si vite arrivé. Puis écoute, avec Véro, je le ferai également. Je pense que si j'ai une Véro à mes côtés, Véro a un calme que je n'ai pas quand, pour moi, il y a un manque de respect.
La dernière qui s'est crinquée dans les entrevues entre nous trois, c'est elle.
Oui.
Avec Marchand, avec Martineau.
Oui, mais je pense que ce genre...
C'est la même, hein, depuis qu'elle est en amour.
Non, mais ce genre d'homme-là peut me faire perdre les pédales. Ouais. Tu sais, tu connais un peu tes limites dans la vie. Puis c'est peut-être une façon... Hey, moi, chez nous, le respect était serré, là, cadré, serré.
Moi, c'est
là.
Le genre d'entrevue où j'aurais bien peur de me mettre dans la marde.
Ben, c'est un peu ça. Ouais. C'était, non, ouais. Mais tu sais, mon Dieu, que c'est bon comme
ben, c'est honnête, ouais. Là. C'est honnête.
Parce que ce serait pas une question... Ironiquement, j'y manquerais pas de respect directement.
Mm-hmm.
Mais non, j'étais à la même place que toi. Je pense que j'aurais peur du résultat. J'ai pas l'impression que je serais la bonne personne.
J'ai hâte de voir à quel point, ça va être bizarre, mais mettons dans l'entrevue, à un certain moment, j'ai l'impression, j'ai le feeling que Bekali va peut-être se positionner en victime par rapport à ce qui est survenu depuis la diffusion massive de la vidéo. Parce que là, depuis ce temps-là, je serais pas surpris d'apprendre qu'il y a eu des menaces de mort.
Ben oui.
Puis qu'il y a eu des insultes à son retour. C'est pas mieux. Mais tu comprends?
Je comprends.
C'est toujours ces affaires-là qu'on voit le lendemain de... Regardez comment cette personne-là a été innocente.
Mais si tu permets, je peux vérifier d'avance. L'entrevue n'est pas faite encore, mais je vais quand même vérifier d'avance dans mon sac de sympathie.
Il n'y en aura pas.
Si j'ai quelque chose pour...
J'ai
rien.
Toi,
j'ai
non.
Rien. Non. Ouais. J'aurais bien de la misère.
Mais tu sais, Gab, c'est plate à dire, mais ça fait partie. Puis ça veut pas dire que c'est nécessairement mérité tout le temps. Je vais être clair, mais ça fait partie de la game. Dans un comparatif hyper mauvais, quand on avait parlé d'Elisabeth Lemay et de ses propos là, sur les hommes qui coupaient la liberté des femmes en étant seules, je suis complètement ailleurs en passant.
Ouais, ouais, ouais.
Mais je veux dire, il y en avait eu là, des menaces, des commentaires. Puis rapidement, je veux dire, tout le monde s'est ravisé pour le dire. Pas parce que t'es pas d'accord que ça mérite ces réactions-là des gens. Il mérite-tu de se faire dire qu'il a été élevé comme la marde, puis que son manque de vocabulaire, son manque de respect, son manque...
En passant, pour les gens qui voient juste une affaire d'immigrants là-dedans. Là, je vous rappelle que dans le cas d'Elisabeth Lemay, là, les gars qui la traitaient de pute puis de salope, là, c'était des petits blancs nés
ouais,
ici. Okay?
C'était des bons Québécois.
Ouais, c'était des bons Québécois de souche.
Et
fait
revenir,
que, tu sais, veut dire, on n'a pas de leçons à donner.
Non. Et revenir sur les excuses, tu sais, je trouve ça intéressant parce que tu nous as lu tantôt une réaction qu'il y avait eu post-événement.
Ouais.
On sent aucun regret, là.
Non. Il est victime de tout.
Ah, non, mais ouais, lui, il fait pitié, là, tu comprends?
Exercice intéressant, Rémi Villemur, ce soir au 99.5 à Montréal, qui va parler avec le individu en question, puis on va revenir là-dessus vraisemblablement demain avec la gang de Marceau. Ce sera à suivre. 16h37, courte pause, on revient. On va s'asseoir avec Judith Demol du Journal Le Soleil. On va parler des cas qui retiennent l'attention présentement. Un procès à recommencer à zéro pour la tuerie de l'Halloween. Et on va parler également du cas de Gilbert Rozon qui s'est réglé aujourd'hui.
Pour joindre l'équipe de Gravel.
Il est 16h44, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Merci d'être des nôtres. Pour nous rejoindre, 418-971-1021 par texto, par téléphone, c'est le 418-780-1021. Vous adorez sa présence, ses récits, sombres, mais remplis de son humanité. Judith Demol est en studio avec nous autres, journaliste judiciaire au Soleil. Salut Judith.
Allô.
Ça va bien?
Oui.
Des gros dossiers aujourd'hui?
Oui, grosse nouvelle.
Hey, le procès de Carl Giroir doit reprendre à zéro.
Oui.
Pourquoi?
C'est la Cour d'appel qui a rendu sa décision aujourd'hui et elle ordonne un nouveau procès. Donc, le verdict de culpabilité qui a été prononcé en mai 2022 vient d'être annulé.
Carl Giroir, c'est le tueur de l'Halloween. C'est celui qui a tué deux personnes dans les environs de la terrasse du Frein dans le Vieux-Québec.
Ouais.
Un récit, d'ailleurs, qu'on va vous relater la semaine prochaine. Dans le podcast des grands événements de Boulevard 102.1, j'ai parlé avec un photographe
du Soleil. Collègue. Oui,
qui, écoute, Steve...
Jolicoeur,
excuse-moi, j'ai vraiment pas la mémoire des noms, puis ça me déshonore.
Tu sais que c'est grâce à Judith,
fois.
En plus. Hein?
Absolument. D'ailleurs, on a parlé de toi un petit peu, parce que t'es dans ce récit-là, veux pas.
Ouais.
Lui était sur le terrain le soir de l'Halloween, puis il est arrivé sur des scènes de crime avant les policiers, et c'est lui-même qui a pris les seules photos photos disponibles de l'arrestation de Carl Giroir, ce qu'il a réussi à faire en se cachant dans le buisson de ce secteur-là. Donc, c'est vraiment son point de vue et son expérience qui va vous raconter quel genre de soirée il a passé. C'est fascinant pour vrai, là. Donc, c'est un drôle de hasard.
C'est un bon timing pour votre contenu, en tout cas.
Absolument, mais en même temps, ça fait quand même drôle de reprendre ce procès-là à zéro. Et c'est un point de droit qui est à la base de tout ça.
Oui, puis c'est ça, cette histoire-là avait marqué énormément Québec, mais aussi la province, parce que ça avait ébranlé notre sentiment de sécurité.
Mais
on en a parlé beaucoup, puis je pense qu'avec la mosquée, c'est un des plus gros faits divers là, qui a marqué la ville.
Absolument.
Donc, c'est un procès lourd, c'est un procès émotif. C'est dur d'envisager de reprendre du début, 6 ans après les faits. Mais c'est ça qui va arriver parce que la Cour d'appel a décidé que dans les droits, c'était pas tout à fait correct. Puis, tu sais, la Cour d'appel, là, c'est rempli de technicalités.
Mm-hmm.
C'est vraiment des points de droit. Là. C'est pas le côté, je dirais, humain là, de la justice. Là. On évalue si tout a été bien analysé. Le procès s'est tenu sur plusieurs semaines, comme je dis, au printemps 2022. Puis, Carl Giroir disait qu'il plaidait non criminellement responsable, en fait, pour troubles mentaux. Donc, lui est arrivé au château Frontenac le jour de l'Halloween déguisé avec un sabre japonais, puis il s'en est pris à 7 personnes sur son passage. C'est une cavale meurtrière.
Ouais.
Il a tué 2 personnes, il en a blessé 5 autres. Et lui, sa défense, il disait qu'il était atteint de schizophrénie depuis plusieurs années, puis que ça l'avait mené vers une certaine mission qui s'était donnée là, pour impressionner ses alter ego. On parlait du bon Carl et du mauvais Carl. Donc, pour lui, il n'était pas en mesure d'évaluer que ce qu'il faisait était mal. Contrairement à la poursuite, lui, elle avait fait valoir que c'était plus un trouble narcissique qui était entraîné par le rejet qu'il avait subi toute sa vie, puis que lui avait agi là, en toute connaissance de cause.
Pour de l'attention.
Oui. Parce qu'il aimait pas le monde. C'est une haine qui s'était développée au fil des années, puis qu'il n'y avait pas de troubles mentaux qui pouvaient expliquer ça. Et le jury a donné raison à la poursuite dans ce premier procès-là, a pas retenu la thèse là, de schizophrénie. Mm-hmm. Et de tous bords, on avait entendu des experts. Là, c'était vraiment un débat d'experts là-dedans. Il y avait un psychiatre qui disait une chose, un autre en disait une autre. Donc, puis il faut savoir qu'un jury, là, ce sont des citoyens comme toi et moi, puis j'en ai souvent parlé, qui ont un cours de droit en quelques heures et doivent décider de ça. Et le jury est accompagné d'un juge
qui
de la Cour supérieure.
Qui donne des directives, des indications.
Exact. Des directives en début de procès qui lui dit comment, qui explique comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut analyser, qu'est-ce qu'il faut regarder. Et en fin de procès, on fait des directives qui peuvent des fois durer une journée entière là, pour qu'on rappelle des points de droit. Là. On explique des points de droit que ces gens-là ont étudiés pendant des années. On les explique en une journée pour que les jurys soient capables de faire la part des choses dans certains points.
Est-ce que c'est des choses, excuse-moi, qui arrivent juste quand c'est des procès avec jury, des décisions de la Cour d'appel comme celle-là qui disent sur point de droit, donc on annule une décision d'un premier procès parce que c'est souvent un juge qui donne une mauvaise directive à un groupe de jurys?
Ça peut arriver même. Ça peut être sur n'importe quoi. Là. Okay. Ça peut être le travail d'un juge en Cour du Québec.
Ça veut dire qu'un juge a erré dans cette partie-là de la décision.
Justement, le droit, c'est tellement, tellement, tellement de points et infini que tu peux te tromper sur plusieurs choses, en fait.
Et dans le cas qui nous préoccupe, dans le cas de Carl Giroir, c'est dans les directives de fin de procès qu'il y aurait eu un problème?
Les directives n'avaient pas été assez claires sur un point du procès. Dans le procès de Carl Giroir, on a parlé beaucoup de son silence lors de son interrogatoire policier.
Oui,
il a été arrêté, puis pendant 5h30, il a gardé le silence, il n'a pas répondu aux questions des policiers. Puis dans un procès pour non-responsabilité criminelle, on doit d'abord analyser si la défense a prouvé qu'il y avait un trouble mental. Puis ensuite de ça, c'est une deuxième décision, on doit regarder si la poursuite s'est libérée de son fardeau, hors de tout doute raisonnable, de dire que Carl Giroir avait commis les crimes avec l'intention de tuer. Qu'il y avait vraiment... Il voulait là, faire du mal au moment de donner des coups de sabre dans le Vieux-Québec. C'est deux décisions distinctes. Puis, le droit au silence, dans un interrogatoire policier. On n'en parle presque jamais parce que c'est un droit constitutionnel, c'est un droit acquis.
Vous avez le droit de garder silence.
On ne peut pas se prononcer là-dessus. Ce n'est pas un signe de culpabilité puis ce n'est pas un signe de non-culpabilité. Tu peux pas dire, mettons, si toi, tu t'es arrêté demain puis tu as gardé silence, tu peux dire, oh, tu parles pas, ça veut dire que tu l'as fait vu que tu n'as rien à dire. Mm-hmm. Tu peux pas dire ça. Donc, on en parle très rarement. Et vu que c'est un droit acquis, on le touche même pas parce qu'on peut pas.
Ouais.
Mais dans le cas de troubles mentaux, là, c'était utile parce qu'on pouvait peut-être tirer des conclusions de ce silence-là, que ça soit pour la défense ou pour la poursuite. Bref, on en a parlé beaucoup de ce silence-là en interrogatoire policier.
OK.
Puis, on peut en parler pour son trouble mental, mais on peut pas en parler pour sa culpabilité après. Est-ce que vous me suivez? C'est quand même complexe.
Oui, oui.
Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'en milieu de procès, on a rappelé une directive au jury en disant, en passant, on peut pas tirer inférence du droit au silence, c'est un droit acquis. Fin de la directive.
Okay.
Mais on a continué à parler du silence de Carl Giroir durant tout le procès.
Mm-hmm.
On l'a utilisé en plaidoirie, les experts l'ont mentionné. Un expert disait que, vu qu'il a gardé le silence, ça veut dire qu'il comprenait et donc qu'il n'y avait pas de trouble mental, grossièrement.
Ouais,
et d'un autre côté, on disait, non, il a gardé le silence juste parce qu'il ne voulait pas en ajouter et parce qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait, donc il avait un trouble mental. Tu sais, tu pouvais le voir des deux côtés, ça dépendait du psychiatre. Puis, en fin de procès, on n'a pas rappelé la directive du droit au silence.
Puis c'est ça le reproche?
Oui, parce que la défense disait que c'était essentiel de le rappeler et aussi d'amener plusieurs détails en disant « Vous pouvez l'analyser pour les troubles mentaux, mais vous ne pouvez pas l'analyser pour la culpabilité ensuite. » Il fallait donner plus de jus là, entourant ce droit au silence-là et ça n'a pas été fait. Et la Cour d'appel estime que ça a un poids important dans la décision étant donné que c'était quand même au cœur du procès.
Ça ne devient pas contre-productif de reprendre un procès à zéro pour un point de droit?
Bien, c'est l'essence même de la Cour d'appel.
Là, il y a des gens qui se posent des questions. Judith, pourquoi ça a été aussi long avant que cette décision-là soit rendue?
C'est une bonne question. Ça fait un an et demi qu'ils l'ont plaidé devant la Cour d'appel. C'est tellement technique. Puis c'est trois juges qui doivent se prononcer. C'est jamais un là, qui doit arriver à un consensus et... Je veux dire, le cas de criminel est épluché dans ce temps-là, puis ils ont d'autres cas à rendre. Mm-hmm. Des fois, c'est plus long, mais là, c'était long. Là. J'avoue
ça serait pas plus simple de rasseoir le jury, puis ensemble, puis de leur dire...
Ça changerait-tu de quoi, sachant ça?
Ouais, oubliez toute cette partie-là, ça, puis reprenez une décision.
Non,
c'est ça.
Refaire un jury impartial.
Ça, c'est... On reprend zéro. C'est nouveau jury.
Oui, nouvelle directive. Et là, je peux dire que s'il y a un nouveau procès là-dedans, on va parler du droit au silence.
Question, Judith. Est-ce qu'on peut tenir compte dans ce procès-là du comportement de Carl Giroir depuis son incarcération, si on est en mesure de prouver si oui ou non il y a un réel trouble mental?
Non, parce que
on est figé dans le temps.
Le procès porte sur ce qui est arrivé à l'Halloween 2020 avec les informations qu'on avait à partir de ce moment.
Puis là, la question, c'est il était-tu conscient mentalement ou pas? C'est ça la question, dans le fond.
Si, il était schizophrène, puis à ce moment-là, il était dans une psychose quelconque.
Il a quand même tué du monde, là.
Oui, mais ça, il le nie pas, là.
Ce qu'il nie, c'est sa responsabilité.
Criminel, oui.
En attendant le nouveau procès, ça peut prendre combien de temps? Puis j'imagine qu'il est quand même derrière les barreaux de manière préventive.
Oui, il est toujours, il est toujours détenu. Là, ce qui va arriver, c'est qu'on le remet sur le rôle qu'on appelle. Donc, il revient aux prochaines assises pour déterminer la suite des choses. Il y a possibilité d'envoyer la cause devant la Cour suprême, qui eux, est au-dessus de la Cour d'appel. Tout ça va être analysé par le DPCP et la défense. La défense, évidemment, se réjouit de la décision. Là. C'est ce qu'ils ont plaidé en appel. Puis Maître Pierre Gagnon, l'avocat de Carl Giroir avait dit tout de suite là, après la fin du procès au printemps qu'il allait porter en appel et c'est ce qu'il a fait et ses arguments ont été retenus.
Question d'auditeur, pourquoi les procès ne sont pas enregistrés avec seulement un nouveau jury qui se retape le procès comme on se tape une reprise à TV pour tout recommencer à zéro au lieu de ramener les gens, les témoins, les victimes, les proches, puis oui, par souci d'économie aussi là.
C'est une bonne question.
C'est pas une idée bête. Hein?
Parce que le procès va changer. Parce que là, la poursuite peut amener différentes choses en preuve. Et le droit au silence va pas être amené de la même façon cette fois-ci. T'sais.
Okay.
On peut se rectifier le tir là, avec ce deuxième procès-là. On n'est pas obligé de faire tout pareil. Là. Ça va être à la poursuite de voir comment ils vont amener ça.
Gilbert Rozon.
Oui.
Condamné, mais au niveau de ce que les victimes demandaient, ouais, versus ce que Gilbert Rozon paye, c'est seulement 15 % de la somme. Mm-hmm. Comment faut interpréter un jugement comme celui-là?
Ben, tu sais, le jugement, il est long, là. Il est, mm-hmm, il est plus des centaines de pages. Je pense que ce qu'il faut retenir davantage, c'est qu'on a cru ces femmes-là. Et que, tu sais, je vous le dis souvent, là, c'est la preuve de la balance des probabilités. Donc, c'est plus probable que ces femmes-là ont été agressées que non. Et déjà là, ça, c'est la victoire de ces femmes-là. Puis c'est ce jugement qui s'inscrit dans la jurisprudence à partir de maintenant. C'est la même chose pour les sous qui ont été octroyés. Mm-hmm. Parce que les sous sont dans des fourchettes qui sont établies en matière de violence sexuelle. On ne peut pas déroger de ces fourchettes-là parce que là, on a un procès qui est hautement médiatisé, parce qu'on attend ça depuis longtemps, puis parce que ça a fait beaucoup...
Parce que la personne est plus riche.
C'est ça, on ne peut, ouais, pas tenir compte de ces aspects-là. Oui, si la personne est riche, on peut en tenir compte souvent, ça rentre dans les critères, mais on ne peut pas s'éloigner des fourchettes qui ont été établies. Puis les fourchettes, elles montent, là, tranquillement, pas vite, okay, mais on ne peut pas faire un saut de autant de ce qui avait été demandé.
Mais comment un juge peut établir, toi, je te crois pour 80 000 puis toi, je te crois pour 73 000?
En fait, c'est...
c'est dur à comprendre pour nous autres.
C'est les préjudices subis. Souvent, on va évaluer les conséquences que tu as eues à cause de cette agression-là. Et donc, on va analyser qu'est-ce que ça vaut. Et oui, c'est pas une science exacte, là. Ça
fait
peut
si je dis, moi, que je suis en dépression depuis, puis que je suis pas retournée travailler, puis que ça file pas, ben, j'aurai de l'argent de plus.
Ben, ça, faut que tu le prouves, là. Puis souvent, mettons, je te fais un exemple vraiment là, hors contexte, mais mettons que t'as souffert d'une attaque physique et que quelqu'un t'a frappé à l'épaule et puis que t'as des douleurs à l'épaule depuis ce temps-là et que t'as consulté, puis là, t'as des médicaments et tout, puis t'as un diagnostic. Puis qu'au même moment, deux jours plus tard, après cette attaque-là, t'es tombé aussi sur le trottoir parce que t'as perdu l'équilibre. Bien, il y a une part de ta blessure qui s'explique parce que tu t'es fait donner un coup à l'épaule, mais il y a une autre part qui s'explique parce que tu as tombé. Fait que c'est pas la totalité de toutes les douleurs que tu ressens qui sont expliquées par l'attaque que t'as subie. Donc, tu peux juste recevoir des sous pour les dommages qui sont directement liés par le tort qui t'a été causé. Je ne sais pas si vous comprenez.
Je comprends, mais il y a comme deux façons de voir la nouvelle aujourd'hui, puis je suis content de voir que les victimes célèbrent puis sont contentes du jugement, mais il y a comme deux façons de le voir, j'ai l'impression, pour le message que ça lance à des victimes d'agressions sexuelles. Parce que, oui, il y a 8 des 9 témoignages qui ont été considérés comme suffisamment crédibles, parce que la 9e personne, il y en a une qui ne reçoit rien, là, de ce que j'ai compris. Ouais. Là. Mais la différence... Je veux dire, il demandait 14 millions au total. Ouais. Finalement, c'est 880 000 $. C'est l'équivalent d'un ticket pour Vite Teinté à Québec, là, ou à peu près, là, pour Gilbert Rozon, là, sans faire de mauvaises allusions à l'actualité actuelle. Il y a comme deux façons de le prendre, je trouve. Ouais. Tu peux le prendre de façon très cynique puis dire, ben finalement, il n'aura même pas payé 1 million, puis lui, sa vie va continuer, puis tout va être correct. Là.
Je pense que c'est facile de le voir comme ça de l'extérieur parce que tu t'imagines qu'on va lancer un message avec ces cas-là.
Ouais.
Mais on peut pas avancer plus vite, okay, que ce que la justice permet de faire. Mm-hmm. Donc, peut-être qu'un jour, on va se rendre là. Peut-être qu'un jour, ça va en arriver là. Puis comme tu dis, on va payer avec notre salaire. Si on est riche, on va donner plus. Mais pour l'instant, la juge, pour pas justement se faire taper sur les doigts puis aller en cour d'appel, il faut que tu établissent les sous selon les fourchettes qui sont existantes présentement dans la jurisprudence.
Parce que sinon, Rozon va en appel.
Ben,
mais de base,